Les sujets de mon exposé concernent cette famille noble du Frioul, qui est la région au nord-est de Venise. Et à l'époque moderne, cette région, la partie occidentale de cette région appartenait à la République de Venise et la partie orientale était sous la domination des Habsbourg. Donc, je voudrais considérer la famille et les familles de la noblesse comme un observatoire privilégié pour examiner l'histoire du pouvoir et les dynamiques du pouvoir dans cette région. Et c'est à partir d'une histoire politique de la famille, donc des élites dirigeantes, mais en général des familles au poids politique et économique considérable, qui est possible, me semble-t-il, de faire émerger la spécificité de l'espace politique de l'Ancien Régime, animé par une pluralité de pouvoirs et construit dans la tension entre public et privé, entre normes et pratiques, entre les caractères formels et informels de l'action politique. Ces choix de choisir la famille comme observatoire privilégié de la politique est particulièrement pertinent pour les territoires que j'étude, dont les caractères composites est accentué par la présence d'une frontière. Donc, je le dirai plus loin, mais la tradition historiographique a toujours insisté sur les caractères militaires, politiques et militaire de cette frontière et ramener la lecture historique de ces territoires à l'histoire de la frontière nationale de l'Italie avec les résultats de négliger complètement des dynamiques qui ne suivent pas une seule direction et des processus d'interrelation entre les deux sociétés que la frontière sépare. Alors, étudier les familles nobles, étudier les choix politiques de cette famille, les intérêts économiques variés, les traditions culturelles, permet d'une part de mettre en lumière les caractéristiques transfrontalières et transnationales de cette terre et de son histoire, et d'autre part, de corriger une analyse du pouvoir qui, en cherchant la modernité des processus de construction de l'État, a oblitéré complètement une partie considérable de l'évolution sociopolitique de ces territoires, qui est marquée, par contre, par les polycentrismes et par une forte composante féodale. Alors, attendez, voilà. J'ai organisé mon exposé en trois parties, c'est ça, non? Les modèles français parfaits. Et donc, je vous parlerai tout d'abord de la frontière et des cadres géopolitiques et de la tradition historiographique de cette région de frontière pour montrer brièvement comment, dans la tradition historico-politique, la condition frontalière, je l'ai déjà dit, a influencé d'une manière très forte l'histoire des élites. Deuxième point, il y a par conséquence des histoires négligées, qui sont les histoires d'un système politique complexe, des tensions sociales, des réseaux de parentèle entre les deux parties de cet territoire. Donc, la seconde partie se propose d'évoquer les motifs des tensions et d'opposition entre les deux systèmes politiques et leurs élites, mais aussi de montrer comment, à partir de recherches sur les familles, on peut dessiner les systèmes des alliances matrimoniales, des intérêts économiques, mais aussi des intérêts culturels et des possibilités de carrière pour les membres de cette famille, qui se fondent pas toujours sur l'opposition, les conflits, mais qui révèlent plutôt des parcours croisés et communs et en sorte de franchissement habituel de cette frontière. Les troisième points portent sous des autres source que nous devons utiliser pour dresser une histoire différente et nouvelle, et en particulier sous cette journal duquel Alexandra a déjà dit, c'est un journal d'une femme qui nous pouvons faire rentrer dans la catégorie des écrits du fort privé. Et il s'agit d'un journal intime, inédit, écrit par une femme entre les 1541 et les 1591. Ça nous permet aussi d'avoir une perspective sur l'histoire de genre. Alors, il faut tout d'abord situer les territoires dont je m'occupe et fournir quelques informations sur sur l'évolution historique, évolution qui vous pouvez mieux suivre sur la photocopie qui Alexandra vous a donnée. Vous voyez, il y a une sorte de chronologie comparative de la partie de l'histoire de l'époque moderne, du siècle moderne, pour la patria del Friuli, c'est-à-dire les Frioul vénitiennes, et pour les Frioul qui est dominé par les Habsbourg et qui comprend la comté des Goris. Il y a des moments dans lesquels vous pouvez voir qu'il y a de changements au niveau de la souveraineté, des guerres, des tensions et tout ça. Il s'agit d'un territoire traversé au cours des siècles par une frontière. Les territoires, c'est là. Maintenant, il y a cette... vous voyez bien, la ville de Udine, c'est la ville chef-lieu, Trieste, et Gorizia, c'est Goris. Donc, c'est les villes principales. Alors, c'est un territoire traversé par une frontière. Ça, c'est la frontière que vous voyez entre les Frioul autrichiens et les Frioul vénitiens au XVIIIe siècle. Et c'est un dessin que j'ai pris dans l'archive de les états provinciaux de la province de Goris. Nous avons d'une part la patrie del Friuli, donc la part que vous voyez dans la chronologie comparative à gauche, et de l'autre, la comté de Goris. Les deux parties sont été divisées quand Venise, en 1420, a pris, a conquise les territoires, une partie du territoire sur lequel avant nous avons la domination et la souveraineté d'un patriarche, des patriarches d'Aquileia, d'Aquilée, donc un gouvernement ecclésiastique, une sorte de gouvernement ecclésiastique. Et le territoire a été divisé entre Venise et les Habsbourg quand, à la mort de les derniers comtes de Goris, Leonardo, duquel vous voyez la pierre tombale qui se trouve dans l'église de Gorizia maintenant, est mort. Et Leonardo, c'est un avocat et un féodataire du patriarche d'Aquilée. Et à la mort de cette dernière comte, les territoires de la comté de Goris sont été englobés dans les domaines de Maximilien Ier. Ces territoires est administrativement rattaché à l'Inner Österreich, ou, ça peut dire aussi à l'Autriche intérieure, qui comprend outre à Goris et à Gradisca, qui c'est un autre petite ville de cette comté, la Styrie, la Carinthie, la Carniole, Trieste, l'Istria autrichienne et la ville de Fiume. Donc, c'est un territoire très vaste, c'est l'Inner Österreich, l'Autriche intérieure, qui s'étend dans tout ce territoire. De 1564 à 1619, la comté est régie par une branche collatérale des Habsbourg qui établit sa résidence et sa cour à Graz. Donc, dans la ville de Graz, nous avons la cour d'une branche collatérale des Habsbourg qui a la souveraineté sur cet territoire. En 1521, le traité de Worms attribue la souveraineté à Charles Quint. Toutefois, ni ces traités, ni ceux qui sont signés après, ne fixent avec précision la frontière. Notre problème, c'est la frontière entre les deux territoires. Dans les comtés, à sud, on pénètre dans le territoire vénitien de Montfalcon et sur la frontière surgissent de nombreuses juridictions féodales des seigneurs vénitiens. Il y a des traités, mais il y a une pratique de cohabitation entre vénitiens et habitants de la comté de Goris qui vit dans une sorte d'incertitude juridictionnelle et qui vit dans une sorte de découpage territorial qui est accentué en 1647 pour la vente des territoires de Gradisca aux Eggenberg, un de la grande dynastie autrichienne qui achètent, sont des banquiers qui achètent les territoires de Gradisca pour avoir une juridiction directement dépendante des Habsbourg et donc pour avoir la possibilité de voter l'empereur à la diète. Les Eggenberg deviennent princes pour avoir acheté la comté de Gradisca, un territoire qui vient à être créé comme territoire princière et comme territoire indépendant de Gorizia jusqu'à 1754. Donc, les Eggenberg donnent 300 000 florins à l'empereur pour avoir ce territoire qui lui donne la possibilité de voter à la diète l'empereur. La création de cette comté de Gradisca, évidemment, vient à ajouter encore de spartitions ultérieures de cet territoire. Donc, du point de vue militaire et diplomatique, l'histoire de la frontière orientale, à partir de la ligne de démarcation établie dans les articles de la paix de Worms, est une histoire de négociations, d'accords, passés entre les deux puissances, Venise et les Habsbourg, pour définir les terres d'influence réciproques. En 1584, donc 60 ans après la paix de Worms, dès retour de la cour de Vienne, l'ambassadeur vénitien Girolamo Lippomano écrit dans sa relation que les confins sont croisés et se confondent. Et cette condition provoque des querelles, des dissensions, des préjudices pour les sujets et également, par conséquence, des soucis pour les princes. Cependant, malgré les négociations entamées maintes fois et l'épisode de la guerre des Ouscots, entre 1615 et 1618, cette situation d'incertitude perdurera jusqu'à la fin de la République de Venise en 1797, lorsque Napoléon Bonaparte effacera les conditions de cette fragmentation politique et juridictionnelle et donc de cette géographie compliquée à proximité de la frontière. Vous voyez, il y a un dessin de la Contea de Gradisca de 1699 et une carte qui s'appelle politico-administrative de cet territoire quand la République de Venise vient à terminer sa vie. Et ici, vous pouvez mieux, j'espère, voir comment il y a beaucoup de qualités des juridictions dans cet territoire. Des juridictions impériales, des juridictions séparées, c'est-à-dire à côté, hors du contrôle du gouvernement vénitien et impérial, des territoires communs, la présence d'un très fort pouvoir féodal porte à cette situation très compliquée et tout à fait pas moderne de la gestion du gouverne de cette territoire. Mais avant de voir quels étaient les problèmes générés par la présence d'une frontière incertaine, nous devons nous arrêter sur l'interprétation que l'historiographie a donnée de ces événements et de ces évolutions. Comment a-t-elle mis en corrélation les rôles de la noblesse locale avec ces dynamiques politiques, les dynamiques politiques que j'ai très brièvement décrites et que vous pouvez trouver dans les passages de la chronologie que je vous ai donnée. Donc, comment nous pouvons mettre en relation les rôles de la noblesse et cet passage, et comment a été étudiée la question de la noblesse? Il faut dire d'abord que les choix politiques de l'aristocratie et l'histoire politique du territoire est profondément influencé par la lecture et l'interprétation de la frontière et par l'intérêt croissant de l'historiographie des deux derniers siècles à montrer ce sujet, la frontière. Un sujet sensible, au centre de l'attention de chercheurs et plus encore du discours public du XXe siècle, en raison de l'importance que les événements militaires des deux guerres mondiales ont eu dans la définition de la frontière orientale d'Italie. Donc, c'est un lieu géographique, mais également un lieu de mémoire qui a pris sur soi, qui a concentré sur soi l'analyse historique autour de l'identité italienne. La pensée et les écrits politiques du Risorgimento, donc, de mouvements politiques qui a porté à l'unité d'Italie, dans l'urgence d'exprimer les positions nationales et anti-autrichiennes, ont déterminé une approche historique du problème de la frontière et souligné avec force les thèmes de la dualité politique en tant que thème clé de l'histoire du Frioul, laquelle, au cours des siècles, allait être influencée par cette condition. Il faut trouver une opposition. Il faut trouver une dualité, il faut trouver l'Italie et, de l'autre côté, l'Autriche. Ces positions historiographiques enfoncent leurs racines donc dans la tradition des études du XIXe siècle et sont liées au processus culturel et idéal de la construction de la nation. Elles dépendent de la puissance évocatrice de la frontière orientale dans la définition des modèles de lecture de l'histoire italienne. Cependant, on sait que la valeur politique que cette frontière a et a eue dans la construction identitaire italienne pèse énormément. On sait aussi, si l'on se réfère au domaine plus spécifique des travaux historiques dès l'époque moderne, que la séparation nette entre les deux champs d'études d'une part vénitienne-italienne et d'autre part Habsbourg-autrichienne a été accentuée par la matrice juridique et formelle de l'histoire politique. Cette position historiographique, à son tour, insisté sur les processus de construction moderne de l'État. Les résultats sont les suivants. Les caractères de différenciation politique et constitutionnelle se sont ajoutés au caractère idéologique, en créant ainsi une série de binômes simplifiés, Italie versus Autriche, République Venise versus Empire, ville versus fiefs, Patricia urbaine versus aristocratie féodale. C'est simple. On met d'une part des choses et de l'autre des autres choses. Non, nous avons besoin de construire une identité italienne qui est une identité fondée sur la ville, fondée sur la modernité, fondée sur une idée de l'État qui est un État moderne. Et de l'autre côté, l'Autriche, l'aristocratie féodale et toutes les autres choses qui nous voulons laisser de l'autre côté de la frontière. Il faut dire en outre que ces deux territoires, c'est pas facile de les étudier ensemble, parce qu'il y a deux traditions d'historiographie qui se touchent, mais qui jamais dialoguent un avec les autres. Le résultat, c'est que tout ça a conditionné beaucoup l'interprétation du rôle politique de la noblesse. En ce qui concerne la patrie del Friuli, donc la partie vénitienne du Friuli, les études insistent sur les caractères doubles du milieu aristocratique et féodaux. Traditionnellement, l'historiographie a abordé la question des choix politiques des élites locales en présentant la noblesse comme ou noblesse philo-vénitienne, c'est-à-dire favorable à Venise, ou philo-autrichienne, et donc favorable à l'empereur. Et on a décrit comme appartenant à la noblesse pro-empereur les familles proches de l'Empire par des intérêts économiques, des visions idéales, chevaleresques par exemple, et des liens de parenté, héritage de la période du patriarcat d'Aquilée, qui avait précédé la domination vénitienne. Alors, les familles plus importantes, les familles plus riches et prestigieuses, comme les Coloredo, c'est une grande famille italienne, ou i della Torre, i Turnuntaxis, par exemple, non? Ou les Strazzoldo, qui sont issus du monde du château, et d'une idée de la noblesse comme noblesse chevaleresque. La noblesse provénitienne était en revanche représentée avant tout par une famille qui s'appelle Savorniane, qui est une famille au profil atypique. Ce sont des grands propriétaires foncières, fortement enracinés à Udine, vous l'avez vu, c'est la ville chef-lieu, liée au milieu artisan et des manufactures, et en plus sont devenus à la fin du XIVe siècle, 1385, membres du patriciat vénitien, donc font partie de l'aristocratie du gouverne. Et donc, d'une part, nous avons les très vieux familles aristocratiques du milieu chevaleresque et féodal, de l'autre part, les familles qui sont favorables à Venise, qui font leur réseau autour de cette famille de Savorniens. Les premiers groupes se seraient opposés dès la fin du XIVe siècle à la domination vénitienne de ce territoire. Corps étranger et potentiellement suspect, ils constituent même au cours des siècles suivants une menace permanente pour la République. Par contre, les seconds groupes auraient appuyé la pénétration du pouvoir vénitien et a fourni de l'aide au niveau militaire, de l'aide pour cette domination. Il faut reconnaître que l'opposition entre ces deux M de la noblesse a un fondement historique. La crise de l'état du patriarche survenue à la fin du XIVe siècle a favorisé les conflits entre les familles féodales et la polarisation en deux factions. Sous la domination vénitienne, ces factions ne cesseront de déclencher des hostilités violentes et durables. Et les conflits entre ces groupes factionnaires conduisait à la révolte du carnaval de 1511, considérée pour ses conséquences comme l'un des plus sanglants révoltes de l'histoire de l'Italie de la Renaissance. Ici, nous avons un document qui nous montre cet Antonio Savornian qui est le chef dans les deux factions, qui arrive avec ses hommes à la porte de Udine et qui entre avec le peuple et avec les ruraux dans la ville. Voilà, alors il y a ce moment très dur, très fort, qui nous montre une fracture très forte de la société entre cette deuxième de la noblesse, pro-Venise et contre-Venise, pro-l'empereur et contre l'empereur. Donc il faut reconnaître des éléments dans cette situation sociale et politique, l'importance de l'organisation en faction des intérêts politiques, l'effet que cette organisation en faction a représenté longtemps un mode approprié à l'organisation du consensus social et aussi à la communication politique entre haute et basse société, entre centre et périphérie, entre appareil formel et informel du pouvoir. Mais je voudrais faire remarquer également une chose. Même dans les recherches les plus fécondes de l'histoire frioulane moderne, comme le travail d'un historien américain qui s'appelle Edward Muir, qui a écrit en 1993 un volume qui s'appelle Mad Blood Stirring, Vendetta and Factions in Friuli During the Renaissance. Donc, qu'il a étudié ce moment très fort des révoltes et des conflits entre factions nobles. Même dans les meilleures recherches sur cette révolte, la clé de lecture est toujours celle de l'opposition et demeure complètement interne au plan public et politique. Nous savons de quelle manière se développent les factions nobiliaires et nous connaissons leur capacité de représenter la société locale. Nous sommes conscients que dans ce climat d'instabilité politique et de polycentrisme institutionnel, les factions font pression sur les liens de parenté, des clientélismes, des voisinages, sur les liens économiques, mettant ainsi en cause d'autres formes d'appartenance. Mais, jusqu'au présent, aucune recherche n'a été menée de manière systématique, par exemple, sur les stratégies matrimoniales, les alliances familiales, les réseaux des parents, qui accompagnent renforce et arrange les conflits entre factions. Sur l'autre plan, celui du privé familial, les mariages, nous le savons, sont les chemins privilégiés pour contracter des alliances avec les amis, mais aussi pour régler un conflit avec les ennemis. Donc, nous savons beaucoup de choses pour ce qui concerne la politique menée par les factions sur les territoires, mais sont des histoires des politiques où nous allons trouver des familles de la noblesse d'une manière d'un parti, des familles de la noblesse dans l'autre parti, mais il n'y a aucune étude, ou il y a seulement quelques petites études qui s'occupent d'étudier les alliances matrimoniales, les stratégies matrimoniales, les réseaux économiques, sociaux, et ça. Regardons pour un moment dans l'autre côté de la frontière. Dans les terres du comté de Goris, la composante seigneuriale, les structures de la propriété foncière, les contrats la régissant n'étaient certainement pas homogènes. Dans ces domaines aussi, un souci important était la présence, non pas passagère, mais structurelle, des étrangers, donc des gens étrangers et sujets à d'autres dominations. Selon une expression utilisée par la noblesse du comté, dans un supplique de 1618 pour définir les Vénitiens, dont gens étrangers et sujets à d'autres dominations. Alors, je passe maintenant à la deuxième partie de mon exposé. La partie que j'ai intitulée « Histoire négligée, système politique, tensions sociales et réseau des parentés ». Dans les territoires du comté de Goris, quels sont donc les problèmes qui surgissent dans des relations entre les Vénitiens et les sujets de l'archiduc au cours des siècles centraux de l'époque moderne? J'ai choisi comme source pour parler de sept thèmes les délibérations et les actes des états provinciaux de Goris, c'est-à-dire l'assemblée représentative des différents milieux sociaux du comté de Goris. Donc, c'est un observatoire institutionnel qui représente le territoire. Il faut dire que dans tous les Frioul, la partie vénitienne et la partie sujet aux Habsbourg, nous avons des états territoriaux. Ici, vous voyez les châteaux de Udine et la salle du Parlamento de Udine, c'est-à-dire les états généraux du territoire qui est composé de la féodalité majeure, des ecclésiastiques majeurs et des communautés majeures. Donc, aussi dans la partie vénitienne, nous avons un parlement qui est comme les états généraux. Ces documents qui couvrent deux siècles entre le milieu du XVIe siècle et le milieu du XVIIIe constituent un bon exemple pour repérer la typologie des problèmes propres à la frontière et récurrents, même s'ils sont différemment distribués dans les temps et s'ils s'aggravent lors des périodes de tension particulièrement aiguës. Les soucis inhérents à la frontière se concentrent autour d'un certain nombre de questions. Les plus importants et les plus évidents concernent évidemment la sécurité de la frontière militaire et les problèmes relatifs à la défense. Ici, vous voyez une élocution, je l'ai dit, verbale de cette assemblée. Ça, c'est une autre petite assemblée, les états provinciaux de Gradisca. Je vous dis que Gradisca a été enlevé dans la comté de Goris, a été acheté par les Eggenberg, donc également dans ce moment-là, nous avons une autre assemblée qui représente les territoires. Alors, les problèmes plus importants et récurrents, c'est les problèmes de sécurité de la frontière militaire et les problèmes relatifs à la défense. Mais suivent les questions judiciaires, nous l'avons dit, nous avons beaucoup de juridictions, donc il y a beaucoup de conflits quotidiens sur les villes, les petites villes à côté de la frontière, qui sont typiques d'une zone frontalière. Nous avons des problèmes d'ordre public, de banditisme, et outre, nous avons des problèmes inhérents les interdits commerciaux, évidemment. Mais c'est sur la nécessité persistante de réglementer d'autres affaires que je souhaiterais attirer votre attention, car elles révèlent ce qui préoccupe les plus d'ordinaire la noblesse. Ce sont les questions qui concernent les rapports entre habitants du comté, sujet de l'Empire, et habitants de la patria du Friuli, sujet vénitien. Un dépouillement sommaire de l'inventaire nous permet de repérer des ensembles d'actes de nature diverse, délibérations des états provinciaux, résolutions souveraines des Habsbourg, suppliques et renseignements que les états provinciaux adressent aux souverains et qui se réfèrent toujours à la présence problématique des Vénitiens. Les différents cas peuvent être principalement réunis dans une seule et même catégorie. L'impossibilité pour les sujets vénitiens présents dans la comté d'occuper certaines charges et d'exercer certaines professions. Donc, nous avons quelques exemples. La résolution souveraine interdisant aux prêtres et aux sujets vénitiens d'exercer les notariats, par exemple, en 1559, l'ordre par lequel, quelques décennies plus tard, on établit que les patriciens qui n'habitent pas dans la comté ne peuvent pas être élus conseillères, par exemple. Les interdits et les limitations s'étendent aussi au plan de la représentation et sont valides du XVIe au XVIIIe siècle. Les exemples s'intensifient lors du changement crucial de la physionomie de la noblesse qui a les droits de siège dans l'assemblée représentative. Alors, il y a des ordres souverains qui établissent qu'aucun membre du patriciat habitant sous la domination vénitienne ne peut être admis aux diètes, par exemple. Ou la déclaration souveraine qui affirme que ceux qui sont admis aux assemblées publiques ne peuvent pas envoyer à leur place quelqu'un qui ne soit pas un membre du patriciat et des autres encore. Ce qui apparaît avec clarté de cette série de documents est un problème durable et persistant des définitions de la physionomie de l'aristocratie territoriale et de ses droits, surtout de ses droits de citoyenneté, évidemment. Un problème de réglementation de la complexité économique, politique et sociale que la noblesse posait dans la politique locale et dans la politique des deux États. Une noblesse qui exerçait des fonctions juridictionnelles légitimes, mais de temps en temps pas légitimes, qui jouissait des droits de propriété, qui avait des intérêts commerciaux, qui contractait des alliances matrimoniales, qui tissait des liens de parenté et créait des réseaux de clientèle ou simplement culturels dans les franchissements les plus complets de cette frontière. Dans ce cadre complexe des relations mises en évidence, même de façon sommaire, j'ai tâché d'analyser un aspect, l'aspect patrimonial. Il s'agit d'un point essentiel car il est aussi bien une condition requise pour la définition d'un statut juridique de la noblesse qu'un problème politique pour les organismes du gouvernement et d'autogouvernement du territoire. En outre, la question des patrimoines est liée à la politique matrimoniale des familles et se croise avec ses formes de transmission. Dans le cadre du comté de Goris, la possession des biens de la part des Vénitiens est, en effet, l'une des questions qui émergent de manière récurrente dans les documents de cet État provincial. Le 5 janvier 1618, la guerre de Gradisca est finie depuis peu. La guerre de Gradisca, c'est une guerre entre Venise et les Habsbourg à cause des Ouscoques, donc à cause des pirates, sont des pirates les Ouscoques, qui, sous la protection des Habsbourg, menaçaient les commerces maritimes vénitiens dans l'Adriatique. Alors, les conséquences désastreuses du conflit militaire suggèrent à la noblesse réunis dans les états provinciaux de Gorizia, des mots suggestifs et un ton très vif lorsqu'elle décrit l'état des misères et des ruines dans lesquelles se trouve la comté après la guerre. Bien entendu, on désigne les Vénitiens comme responsables, notamment dans un document où les représentants territoriaux présentent au souverain la situation dramatique de la Provence et les conditions de vie de ses habitants à la fin de la guerre. Dans ces documents de 1618, la noblesse comme telle souligne la nécessité d'une intervention législative, demande au souverain de remédier au désordre, de réformer les inconvénients qui avaient conduit à la guerre, et fait de la présence de gens étrangers, donc des sujets vénitiens, la cause principale du conflit. Il fallait alors refuser de délivrer des sauf-conduits aux bandits, mais aussi d'empêcher à tous les sujets vénitiens d'occuper des charges et d'exercer tout genre de professions ou de métiers. Les choses que nous avons déjà vues, non, il y a des libérations qui disent qu'il y a de très précises conditions pour lesquelles les sujets qui ne sont pas des habitants habituels de la comté de Goris faut avoir pour faire des professions, pour avoir des propriétés, tout ça. Donc, des droits de citoyenneté sont ça. De la même manière, l'aristocratie foncière invoque un autre type d'exclusion et supplie les souverains pour qu'ils interdisent aux sujets vénitiens d'acheter ou d'obtenir d'une autre manière. C'est quoi cette autre manière? Nous allons le voir. D'obtenir d'une autre manière des biens immobiliers dans la comté. Ils demandent en outre qu'on impose aux étrangers déjà propriétaires des biens de les revendre au sujet du comté en établissant un juste prix. Ces dispositions déjà prises au XVIe siècle sont réaffirmées entre 1630 et 1680, ce qui montre leur inefficacité. S'il faut redire et rétablir de nouveau tout, c'est-à-dire que rien a été, il n'y a pas de résolution au problème. Parmi ces dispositions, il faut mentionner au premier chef les prélèvements fiscaux, dont l'évasion signifie l'exclusion de la noblesse. Les interdictions de vente à chaque mentionnée ne sont pas les seules à avoir des implications fiscales. Attention, il existe aussi une requête d'intervention des États provinciaux auprès du souverain qui trahit un problème économiquement macroscopique et qui se réfère à cette autre manière d'obtenir des biens. Je souhaite insister sur le fait qu'au-delà des raisons politiques et des défenses corporatistes du noyau des familles réunies dans les États provinciaux de Goris, et au-delà même des interventions normatives qu'ils sollicitent, ces documents fait émerger un réseau de liens croisés entre mariage et des patrimoines touchant aux deux sphères sociopolitiques. Un fait qui pose de toute évidence un problème de réglementation. Les délibérations montrent en réalité tout et son contraire. Les refus des liens entre sujet de l'Empire et sujet de la République et l'existence de ces mêmes liens. Le 3 mai 1655, dans un document traiter encore une fois des questions relatives à la guerre, les États provinciaux informent les souverains qu'en peu d'années, par les biais des dots, on a transféré à l'État vénitien la somme de 90 000 florins de Rhénanie, c'est-à-dire une somme énorme. Ces chiffres semblent vraiment élevé si l'on considère qu'au cours de cette même année, les souverains demandent pour l'ensemble du comté 5 000 florins de contribution à les États provinciaux de Goris réunis dans la diète. Et à la fin de la négociation avec la diète, vient à être acceptée la somme de 4 000 florins qui sont librement promis par les États eux-mêmes. Donc, 10 000, c'est vraiment une somme énorme d'argent qui passe par les biais des dots d'un territoire à l'autre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mariages entre les deux parties, entre les familles d'un côté et de l'autre de la frontière. Mais ces chiffres conforment à une autre donnée significative. Les 90 000 florins dans les dernières décennies du XVIe siècle, une autre grande famille, les Athems, c'est une autre grande famille de l'Autriche, l'un des familles les plus importantes de la comté de Goris également, avait prêté au souverain en recevant en échange juridiction de première importance. Il ne s'agit pas d'un cas isolé, puisqu'en 1607, les Dornberg ajoutent à leurs charges et bénéfices leurs seigneuries et les capitanats d'étolement comme gage sur les prêts des 70 000 florins accordés au souverain. Donc, à l'état actuel de la recherche, je ne suis pas capable de dire beaucoup plus sur la question des dots, ni sur les canaux par lesquels l'Assemblée de Gorice a pu fournir une quantification économique des dots passées dans les patrimoines des familles de la République de Venise. Mais les chiffres révèlent donc un problème, même si l'on peut bien imaginer qu'il a été faussé par excès au moment où l'on avait réouvert, peu d'années après la conclusion de la guerre, l'estimation cadastrale pour la contribution du territoire. Non, c'est mieux de dire que nous avons eu un empeuvrissement du territoire. Non, il était préférable donc de dénoncer une situation d'appauvrissement et de difficultés afin de chercher à réduire les prélèvements fiscaux. Mais les problèmes reste. Il s'agit certes d'une question importante où l'on croise un plan privé familial, un plan économique patrimonial et un plan politique législatif. Les cadres où se déroulent d'habitude les échanges économiques à l'occasion d'un mariage se compliquent et deviennent politiquement encore plus important, puisqu'au problème de la réglementation d'un échange social s'ajoutent les problèmes de la frontière entre États, entre systèmes sociaux et juridiques différents. L'approfondissement de cette question devient alors particulièrement intéressant, je trouve. Nous savons que les statuts du comté datant XVIIe siècle interdisait les noces entre des femmes nobles pouvant être les héritiers d'une famille et des étrangers. Donc, si une femme est héritière, elle ne peut pas épouser un étranger. Au siècle suivant, les passages des biens au-delà de la frontière attirent à nouveau l'attention des États provinciaux en raison des transferts d'héritage, c'est-à-dire que l'interdiction n'a pas fonctionné. Donc, nous ne possédons pas pour le moment de données sérielles sur lesquelles fonder solidement des hypothèses. Je me limiterai à mentionner un cas de documentation familiale qui, dans ce contexte, témoigne d'un large spectre de liens matrimoniaux et de quelques problèmes liés au respect des contrats d'auto. La famille en question est celle de De Grazia, s'appelle De Grazia. Le cas est intéressant car l'existence d'un fonds d'archives très riche qui nous permet d'aborder les problèmes des relations de parenté et les liens économiques que la famille tissait d'une part et d'autre de la frontière. C'est une famille de marchands d'origine lombarde. Les De Grazia sont arrivés en Frioul entre la fin du 15e siècle et le 16e siècle. Et dans le 16e siècle, se sont établis dans les territoires de la comté. Dans un premier moment, dans les territoires vénitiens, à Udine et à Cividale, et ensuite à Gorice. Génération après génération, ils poursuivent leur ascension sociale graduelle, mais systématique. En 1532, ils obtiennent la reconnaissance du statut nobiliaire et en 1569, ils font partie de la convocation des États. Donc, montent jusqu'à devenir noblesse impériale. Toutefois, l'abandon progressif des activités commerciales liées au drap et la qualification économique parallèle comme propriétaires fonciers s'est produit de manière plus nuancée au point que dans la seconde moitié du XVIe siècle, ils sont encore liés par des relations de parenté et par une situation de débit à des familles d'artisans du Frioul occidental. Un aperçu, certes, très sommaire des relations matrimoniales de Grazia au XVIIe siècle nous fait entrevoir aussi bien les cadres de la complexité sociale des alliances matrimoniales tissées par cette famille que celui du franchissement de la frontière étatique. Ils sont enfants liés à certaines familles de la noblesse archiducale, telles les Coloredo, mais aussi aux Coronini-Cromberg, aux Lantieri, donc les familles les plus importantes du comté. Les liens de mariage sont également très nombreuses avec des familles du Frioul vénitien aux origines sociales diverses. Des châtelains, comme les Maniago, des membres du patriciat de le chef lié Udine. C'est bizarre parce que cette noblesse, cette patriciat urbaine, c'est un patriciat qui, à Venise, tient des positions idéales anti-féodales. Donc, il y a aussi un plan idéal de la noblesse et des valeurs autour desquelles la noblesse se reconnaît, qui est beaucoup confondue. Donc, cette famille du De Grazia tissait des alliances matrimoniales avec la haute noblesse impériale de la comté de Gorizia, également des liens de mariage avec des familles du territoire vénitien, féodales aussi et châtelaines aussi, mais du patriciat urbain. Donc les réseaux sociaux constitués par les mariages méritent d'être approfondis car ils permettent de mieux interpréter les stratégies d'ascension et de renforcement de cette famille de Gorizia. Cependant, à partir de ces éléments, nous pouvons déjà avoir un tableau des alliances diversifiées tant du point de vue social que géopolitique. C'est-à-dire que si je fais une recherche approfondie, je trouve des choses qui ne sont pas aussi facilement mises dans de modèles fixés. La somme des cas particuliers concernant le bien d'auto qui passe d'une famille à une autre, d'un territoire à un autre, permet d'identifier un problème qui ne révèle pas seulement de l'économie des familles, mais qui devient une question politique, une question fiscale avant tout. Plusieurs documents intitulés « Heiratskontrakte mit der Frauen, die in die Familie gehen » montre bien que les De Grazia sont très attentifs à la gestion des entrées dotales. Les archives de la famille conservent une documentation fort intéressante datant précisément du milieu du XVIIe siècle relative à des litiges. Les causes les plus fréquentes sont de deux types, le non-respect des obligations stipulées par les accords relatifs à la dot, et deuxième, les problèmes de revendication entre héritiers masculins et féminins au sujet des biens appartenant aux mères, surtout. Je ne m'arrêterai pas sur les implications juridiques complexes de ces conflits. Je dirai seulement que les hommes de loi appelés à émettre leur avis doivent interpréter un cadre législatif très complexe en matière successorale et se référer à une hiérarchie stratifiée de sœurs, laquelle trouve son origine dans les terrains juridiques communs de la période du patriarche d'Aquilée. Les avis juridiques suggèrent souvent que les deux familles parviennent à un compromis et qui s'appelle à un code universel et idéal de la noblesse, qu'il faisait donc appel à l'honneur des sujets impliqués à leur univers commun, de bonne manière. Donc, question privée, vicissitudes patrimoniales de nature familiale, comme tant d'autres, mais, et cela doit être souligné à mon avis, avec force, les uns et les autres peuvent laisser entrevoir un problème politique considérable inhérent au rapport entre institutions étatiques, systèmes juridiques différents, opportunités sociales et des carrières différentes qui se croisent et qui nous ne devons pas penser comme séparés seulement parce qu'il y a une frontière étatique. Alors, je viens à la troisième partie de mon exposé et à la proposition méthodologique de annuler tout ça et de ces mettre à la recherche d'une autre manière de lire cette question à partir d'un nouveau type de source, d'un nouvel type de source, d'un nouveau, pour tenter de établir un nouveau cadre et de mettre en relation les publics et les privés. Donc, dans mon troisième volet, je porte aussi sur la famille des De Grazia, parce que je voudrais présenter les premiers résultats d'une recherche menée autour d'un journal intime du XVIe siècle, je l'ai dit, et sur la femme qui naît l'auteur. Et ce cas nous permet trois choses. D'abord, de confirmer l'importance des écrits personnels, dont des égo-documents, au mieux, comme en France vous l'appelez, des écrits du fort privé. Il y a une tradition dans les dernières années très développée de cette étude. Jean-François Rougeau, Bardet ont étudié beaucoup ces écrits du fort privé d'une manière très articulée à partir de leur être des objets matériels jusqu'au à la forme et à la forme stylistique, c'est-à-dire, et à la substance qui est cachée dans cette type d'écrit. Alors, l'importance de ces écrits personnels pour les renouvellements méthodologiques de l'histoire sociale, mais aussi de l'histoire politique. Ensuite, nous pouvons ouvrir une perspective de genre dans l'analyse et souligner de quelque manière l'agir des femmes. Enfin, nous pouvons libérer à partir de ces deux perspectives, sources personnelles et sources féminines, l'étude de la politique, de sa dimension publique et formelle pour la greffer sur les dynamiques sociales concrètes, sur les contextes économiques et enfin sur la chaleur d'un vécu biographique. En effet, j'ai dû élargir mon angle de vue en suivant les traces d'une femme qui, bien qu'elle ne soit pas issue de la noblesse du Frioul occidental, est parvenue à se lier avec des familles de la noblesse impériale, les De Grazia. Elle se trouve aussi au centre d'une réseau de parenté, d'affaires fort développés au milieu du XVIe siècle dans l'ère vénitien comme dans les territoires impériaux de la région des Gorices. J'ai trouvé cette journal et du journal est surgi son auteur et son contexte social. Le texte est un journal intime, la graphie féminine trahit un manque de raffinement, il y a des mots qui sont interrompus, des caractères qui sont grands, des termes dialecto-italianisés. C'est un témoignage manuscrit précieux qui est conservé à la bibliothèque de Gorizia, de Gorice, et qui est attribué dans l'inventaire à Rosina de Porcia. Je l'ai dit, il y a une famille très importante qui a son siège à Graz, mais qui a des palais également, des châteaux, des biens, des propriétés très vastes dans le Frioul vénitien qui s'appelle Porcia. Alors, dans l'inventaire, nous avons, de la bibliothèque, nous avons cet journal intime qui a été attribué à Rosina di Porcia. Famille Porcia. Mais l'attribution est erronée en raison des erreurs de transcription de l'auteur de l'inventaire. Dans l'inventaire manuscrit à l'inventaire final, Bosina est devenue Rosina. Alors, au départ, je croyais qu'il s'agissait d'un noble de la famille Porcia, l'un des plus anciennes familles de la noblesse friulaine, ayant une branche, je l'ai dit, provénitienne, et un autre, des noblesses impériales. Même s'il les nomme Rosina, petit rose, non? Mais mentionné dans l'inventaire, laissait quelques doutes quant à son origine. Alors, c'est un livre de les choses qui sont dignes d'être notées, qui doit être notée pour faire la mémoire de cette femme de 1541 jusqu'au, nous savons, la dernière, c'est 1591. Et un très petit carnet autographe composé de 60 feuillets environ, où l'auteur relate l'un à côté de l'autre les événements de l'histoire politique locale et internationale, des faits de la vie quotidienne et de sa vie privée entre 50 ans. Avec l'intention déclarée dès les premiers feuillets, il est écrit là en bas, de ne pas demeurer oisive dans les jours de fête, per non star in occhio nei giorni de festa. Ce texte se présente à la fois comme des petits annales et comme un journal intime. Il commence en 1566 par l'inscription d'une date antérieure qui correspond à une étape importante dans la vie de cette femme, le 25 novembre 1541. Les jours, et là je vous ai mis la partie en italien, les jours de Santa Caterina, delle Sainte Catherine, j'épousai Geronimo Bosina di Porcia et restai avec lui jusqu'à l'année 1565, lorsqu'il mourut le 25 juillet, jour consacré à Saint-Jacques. Ce sont les premières indications permettant d'identifier le lieu et les milieux sociaux d'où elle provient. Le lieu est Porcia. Elle est donc l'épouse de Geronimo Bosina. C'est Bosina explique l'erreur de transcription Rosina di Porcia, Bosina. Quelle signification peut avoir cette première indication? Les jours de son mariage et celui de la mort de son mari fixent les pôles temporels de sa vie d'épouse. On peut supposer que la raison qui pousse Bosina à écrire son journal réside dans ces deux dates. Continuer à relater les choses importantes, les affaires privées, là où son époux les avait interrompues, s'est chargé à sa place des affaires de la famille et annoter ce qui se déroule. Ces notes pourraient faire penser à un livre de famille. C'est un genre très connu des spécialistes des écrits du fort privé de l'ère italienne, en sorte de livre de raison français, mais qui devient l'archétype même de cette type d'écriture qui a attiré de nombreux spécialistes italiens. La géographie et la typologie des livres de famille italiens sont certes très diverses, mais il n'est pas rare que l'épouse succède au mari dans la rédaction d'un texte qu'elle poursuive son action. Mais ce n'est pas ça le cas. Au fil de la lecture, nous nous apercevons que les livres et sans aucun doute un écrit personnel et individuel. En témoigne non seulement sa structure matérielle, parce que c'est un petit carnet. D'habitude, les livres de famille, c'est un livre un peu plus grand qui demeure dans la maison et qui est écrit génération après génération du membre de famille. Celui-là, c'est un petit carnet. Et il est écrit avec la même calligraphie, avec la même graphie. Mais ce sont pas les éléments matériels qui font penser à ça, c'est aussi son style. Nous découvrons la capacité d'observation très particulière d'une femme déjà habituée à gouverner les affaires privées en personne, à s'occuper des affaires économiques et, pour cette raison, à regarder attentivement le monde. Les notes de ces cahiers dessinent très précisément des intérêts dans la double acception de ces termes, des affaires économiques dans lesquelles elle est impliquée et des nouvelles et des événements qui attirent son attention et sur lesquels elle exprime son avis. C'est un monde stratifié que les journaux racontent où des épisodes de la vie privée se mêlent à des événements de la vie publique, des questions patrimoniales et financières, à des sentiments religieux. Partant de son horizon privé, de ses annotations ayant permis de donner une identité à ses femmes. Alors, j'ai trouvé cette cahier, mais je connais pas l'auteur. Bon, elle dit... je me suis mariée avec Geronimo Bosina da Porcia, mais Bosina, c'est pas le vrai nom de son mari. À partir d'une autre annotation dans les cahiers, j'ai pu connaître cette femme, l'auteur de cette cahier. Alors, c'est cette annotation-là qui m'a permis de donner une identité à cette femme qui s'est révélée être une figure centrale dans la gestion du patrimoine de la famille et dans les choix de transmission de cette famille. 1566, a dit le 13 janvier. Le 13 janvier 1566, cette femme sans descendance, elle n'a pas de fils, de fille, écrit que Bernardino, son neveu, épouse Marina, la fille d'un gentilhomme Francesco de Grazia, la famille de la noblesse de Goris, dont nous avons parlé, et de sa sœur Maria. Grâce à cette annotation, j'ai pu donner des traits plus précis à ces personnages et reconstruire son réseau familial. C'est dans les riches archives de la famille de Grazia que j'ai trouvé différents éléments à mesure de révéler l'identité de l'auteur de ce journal. Et j'ai découvert des lettres autographes et d'autres carnets qu'elle avait rédigés. Si certains aspects de sa généalogie doivent encore être éclairés, nous pouvons commencer à ébaucher les milieux sociaux auxquels appartient sa famille et à construire son réseau de parentés. Elle s'appelle Venere. Sa sœur Maria épouse le noble Francesco de Grazia. La fille, donc la nièce Marina, épouse le neveu de Venere, qui a épousé Geronimo Bosina. Donc nous avons un double mariage, une génération après l'autre. Un double mariage, la sœur de Venere avec de Grazia, la fille de de Grazia avec les neveux de Venere. Elle est la fille d'un qui s'appelle Pietro Stella et qui vient d'un pays près de Venise qui s'appelle Porto Buffolet, d'une famille de cordonniers. Elle s'est mariée, comme elle-même l'a dit, avec Geronimo, dont le véritable nom de famille, c'est pas Bosina, c'est Della Massara. C'est une famille de riches pelletiers, cordonniers, pelletiers, et des marchands de blé de Porcia. On la surnomme Bosina, or Bossina, en raison de ses activités commerciales de blé avec la Bosnie. Donc Bosina, c'est pas un nom, c'est un surnom. C'est pas facile de les trouver. Donc, c'est une famille de pelletiers des marchands de blé qui vient être surnommée Bosina ou Bosina pour les activités commerciales de blé avec la Bosnie. Par sa sœur Maria et par son neveu Bernardino, qui s'est marié avec la fille de Maria, Venere a contracté des liens de parenté avec la famille de Grazia, qui plus tard, nous avons dit, ferait partie de la noblesse impériale. Elle est la fille d'un corbeau. Venere est une femme qui a l'habitude de s'occuper de ses affaires économiques et patrimoniales, de faire fructifier les rentes des champs qu'elle possède, d'encasser les loyers et les baux, de prêter de l'argent. Elle enregistre systématiquement ses recettes dans deux carnets en particulier, les livres de loyer et un autre livre qui s'appelle Libro de mi, Livre de moi. Venere Bosina, c'est un petit carnet où elle vient annoter tout l'argent qu'elle prête à quelqu'un. Ce dernier est entièrement rédigé de sa main, contient les calculs des prêts qu'elle a accordés à de différentes personnes. Venere est donc en mesure de gérer avec une large autonomie son patrimoine ainsi que celui de sa famille, et la transcription de ses opérations fait partie de sa manière d'agir habituelle. Les documents d'archives de la famille consultée démontrent que nombre de choix économiques et relationnels dépendent des décisions de Venere Bosina. À côté des nouvelles sur les membres de la famille, dans les carnets vous l'avez vu, Venere annote et commente deux autres catégories d'épisodes. Les informations qui sont les plus directement utiles par ses activités économiques et les faits des chroniques sociales et politiques qui sont tout de même en mesure de les influencer. Elle marque avec une certaine répétition les nouvelles concernant la météorologie et le climat, par exemple. Ce témoignage est particulièrement important car il est rare pour cette époque, d'autant plus qu'il est laissé par une femme. Voyons quelques exemples. Venere exprime ses soucis pour ses activités agricoles et pour les risques qu'elle incure en juillet 1565, lorsque une forte vague de chaleur aggrave les conditions de travail dans les champs où les paysans commencent à mourir, ou bien en 1569, lorsque, après de fortes pluies, une vague exceptionnelle de chaleur grille les plantes des seigles et des froments et compromet la récolte des blés. Cette situation fait augmenter les prix et provoque une grave disette. Les habitants de campagne enlèvent du four, elle dit, enlèvent du four le peu de pain dont ils disposent, car, terriblement affamés, ils ne pouvaient pas attendre sa cuisson. Elle raconte qu'ils mangent le pain avant qu'il est prêt. Il s'agit d'informations extraordinaires puisqu'elles nous livrent des données sur la vie matérielle de cette époque et qu'elles sont exprimées avec émoi et chaleur. Mais c'est surtout la notation des événements politiques qui étonne le plus. Venere est capable d'observer et d'écrire avec attention les pouvoirs. Elle peut s'attacher aussi bien au cadre politique local qu'à un horizon plus vaste. Elle raconte les conflits sanglants qui troublent sa communauté, montre qu'elle est au courant des dynamiques des factions et commente les luttes entre les groupes, les embuscades, les assassinats, concernant la gent du peuple comme les seigneurs des Porcia, les féodataires du lieu impliqués dans la vendetta entre factions nobilières. Mais Vénère ne se penche pas seulement sur les événements locaux, sur les jeux de pouvoir dont l'influence ne dépasse les territoires où elle vit et qu'elle peut connaître par expérience directe. Elle se met aussi à commenter les grandes manœuvres des États, les événements militaires ou diplomatiques dont se compose la politique internationale, même si, au premier plan, il y a toujours la question de la frontière orientale vénitienne et sa défense, sa capacité de tenir militairement. Comme par exemple dans le cas de la forteresse de Marano, dont elle relate les passages en 1542, c'est dans votre chronologie, la forteresse passe de Habsbourg à la Sérénissime. Vénère, avec quelques mots simples et directs, mélange les récits et la langue parlée et synthétise les circonstances de l'attaque à la forteresse et repère les responsabilités de ces faits, en particulier le rôle d'un homme qui s'appelle Beltrame Sacchia. Et il est un ambitieux homme du peuple de Udine qui s'est enrichi avec le commerce de bleu, donc le même milieu économique de Vénère, et a été le protagoniste de l'assaut à la forteresse pour les comtes de Venise. Donc elle nous donne des informations vraiment très importantes sur les questions politiques qui nous avons l'habitude de voir traitées dans la haute historiographie. Lorsqu'on a des intérêts économiques à cheval d'une frontière instable comme celle séparant la République de Venise et l'Empire, qui subit périodiquement les attaques turques, il est important d'être informé. Vénère prend note des épisodes se déroulant loin, car ils peuvent avoir des conséquences sur la stabilité du territoire. Alors, elle écrit dans son carnet que les Turcs s'emparent de Nicosie en 1571 et que les nobles vénitiennes, qui s'appellent Agostino Barbarigo, a été nommé capitaine général. Elle écrit sur les gouvernements, elle écrit aussi que le gouvernement vénitien a renoncé l'an d'après à organiser une expédition maritime contre les Turcs en raison du désengagement espagnol. Elle dit, les Espagnols n'ont pas voulu faire cette armée avec les Vénitiens contre les Turcs. Elle registre également la paix de 1573. Je ne cite que des fragments, mais ils sont suffisants pour témoigner d'un texte où les vicissitudes familiales, les épisodes politiques alternent avec des considérations sur la rentabilité agraire, par exemple, sur le déroulement du commerce, sur la météorologie, sur les prix des céréales, comme si tout cela appartenait avec la même importance à la vie de cette femme et à ses journées. Et, encore une fois, il s'agit d'une femme du XVIe siècle dont la condition sociale n'est pas très élevée. Nombre des sujets abordés ici doivent être évidemment approfondis. La reconstitution de son réseau familial et clientélaire, qui comprend de riches artisans de la communauté du Frioul occidental Porcia et des familles appartenant à la noblesse impériale de la région de Gorizia telle de Grazia. Ces réseaux peuvent nous renseigner non seulement sur les systèmes des relations sociales et économiques à cheval sur la frontière, mais aussi sur les vicissitudes religieuses et sur la diffusion des idées hétérodoxes et réformées. dans un ouvrage d'Andrea Del Col, qui est un spécialiste de l'Inquisition en Italie, et un ouvrage qui a été consacré à la diffusion des idées réformées dans la partie orientale de la République de Venise, apparaît l'époux de Vénère. Parmi les figures les plus remarquables du milieu hétérodoxe de Porcia, il y a précisément Hieronimo della Massara, dite le Bossina, qui est un cordonnier, un pelletier, un commerçant en blé et propriétaire. Alors, Andrea Del Col a dépouillé tout l'archive notariale et donc il a vu qui l'époux de Vénère, c'est un très grand propriétaire foncier qui a acheté nombreux terrains dans cette partie du Frioul occidental. Et il conclut disant que Hieronyme était parmi les hommes les plus riches de son pays. Donc un homme au profil professionnel complexe et entreprenant. Sachant au présent quelque chose de plus sur son épouse, nous pouvons ajouter une chose à son portrait. L'accumulation foncière de cet homme, l'accumulation foncière de Hieronimo, coïncide avec son mariage. Le rôle de ce mariage est celui de la dot de Vénère dans l'enrichissement de ces hommes semble évident. Et c'est là même si l'on pourrait mieux connaître les détails. Les documents attestent d'une activité de prêtre exercée par cette femme en faveur de son époux, laquelle va s'ajouter à celle que nous avons déjà mentionnée. À maintes reprises, Hieronymo a recours à son épouse pour des prêtres. Par exemple, en 1554, dans un reçu conservé dans les papiers de Vénère, il est écrit « Denari imprestati a mio marito », donc « argent que j'ai prêté à mon mari ». Il écrit avoir eu la somme d'un centaine de ducats. C'est une union fructueuse, aux implications économiques considérables, mais qui est aussi intéressante en ce qui concerne les positions religieuses des conjoints. Et donc ma recherche est encore incomplète, mais il est probable que Vénère, femme bien renseignée et attentif aux nouveautés, et suivi son mari et son entourage dans son choix religieux, au point qu'elle s'est lassée, comme dit dans une lettre la sœur Maria, émouvoir par l'Antichrist de Babylone, comme l'écrit dans cette lettre sa sœur Maria de Grazia. Mais je ne sais pas si, par la suite, étant veuve, elle a suivi les conseils de sa sœur lui adressés. Rappelez-vous de vos fautes et ayez recours à Dieu d'un âme pénitent et priez-le pour qu'il vous pardonne. Donc, ma recherche n'a pas encore répondu à toutes ces questions, à les questions que je vous soumis. Il faut que j'élargisse dans d'autres directions, par exemple vers la reconstruction d'un réseau de parenté et des relations économiques qui se présentent comme complètement inattendues, mais efficaces, qui franchissent la frontière et unit des familles de la noblesse impériale et des familles d'artisans et des marchands du Frioul vénitien. Merci. C'est tout. Thank you.